Bienvenue sur la chaîne Ambiances Architecture Urbanit AAU.
Charles, peut-être un temps de petit rapporteur. Tu prends le temps que tu veux.
Oui, ben écoute Laurent, je te remercie pas, hein, parce que la mission, ben, elle est tout simplement, pour ce qui me concerne, assez impossible. Hein. Je vais essayer à minima de rebondir. J'ai bien aimé la partie où Laurent disait qu'il était un pur produit des années 1980. Alors, pour ma part, j'étais en train de me demander de quelle décennie j'étais le produit. Probablement celle d'après. Mais après, quand je vous écoutais, je me disais, c'est peut-être pas de 1990 dont je suis le produit, mais peut-être plutôt de 1890. Et je vous expliquerai pourquoi, peut-être si je m'en souviens, au moment où je conclue. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pensais à un peu à ce moment-là où les disciplines qui nous intéressent dans le champ des études urbaines ne sont pas encore toutes désynchronisées, ne sont pas encore toutes jalousement emparées d'objets, de méthodes, notamment d'enquêtes, pour pouvoir mieux se distinguer. C'est un moment, au contraire, où l'histoire de l'art, ce qui va devenir peut-être l'urbanisme, la géographie et la balbutiante sociologie sont encore très, 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 très liées. Et se fédère peut-être plus autour de deux choses assez simples, hein, les rapports de la société à son environnement pour les géographes, les rapports entre les individus, entre les groupes, dans les espaces urbains ou non. Et j'étais en train de me dire, dans le fond, est-ce qu'il n'y a pas derrière les discussions sur la question de l'ordinaire, tout simplement, un premier signal faible, c'est ce que, en effet, Elsa propose, c'est de retrouver quand même, de refédérer autour de ce qui peut paraître nous fédérer en tant qu'individus, l'ordinaire, fédérer les méthodes, fédérer les sciences humaines et sociales, et à mon avis, les sciences de l'ingénieur et les sciences du vivant aussi, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, je pense, au XXIe siècle, permettent de mieux comprendre l'ordinaire des espaces habités. Alors, bon, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Moi, il y a... Quand je vous ai écouté, j'ai noté, Lucille parlait de l'ordinaire de la critique urbaine, Alice de l'ordinaire des pratiques, si j'ai bien compris, dans un grand ensemble romain. Laurent, lui, de l'ordinaire du travail ordinaire du chercheur. Donc, cet art de faire qu'on va essayer un petit peu archéologiquement, en effet, de déconstruire, c'est un mot du moment aussi, pour pouvoir... à la fois rendre compte de ce qui nous paraît être dans la quotidienneté et en même temps s'assurer que les méthodes pour en rendre compte sont les bonnes. La première chose qui m'est venue en vous écoutant, c'est une lecture que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps finalement, Donald Shawn sur le praticien réflexif. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un auteur qui est souvent plus connu du côté des sciences de l'éducation, mais qui doit être très connu par vous toutes et tous, puisque c'est un héritier en fait de Dewey et du pragmatisme. Dans Le praticien réflexif, il y a tout un passage sur ce qu'il identifie comme étant l'un des praticiens réflexifs, c'est l'urbaniste. D'ailleurs, je vous en recommande la lecture, c'est assez passionnant. Pour le coup, c'est vraiment un travail d'ethnographe. Et il dit une chose qui est assez intéressante, je trouve, Dewey, c'est qu'il dit, dans le fond, il faut arrêter d'envisager que ceux qui font, ceux qui sont dans la pratique, ne sont que des gens qui appliquent ce que les théoriciens ont fomenté avant eux. Bien au contraire, les praticiens, ou en tout cas certains praticiens, sont capables d'une réflexivité dans leur action. C'est ce qu'il appelle « reflection in action », c'est-à-dire la capacité, en fait, en permanence de questionner l'action en cours. Et en fait, moi, je me demandais, dans le fond, si ce dont nous essayons de nous saisir à travers la question de l'ordinaire, c'était pas une manière de dire que l'habitant est réflexif Le celui qui conçoit la ville est réflexif, l'élu dont on n'a pas beaucoup parlé est réflexif, et le praticien lui-même est réflexif, et qu'en réalité, s'il est question d'ordinaire, je pense qu'il faut l'embrasser dans la totalité. C'est l'ordinaire de celui qui, dont le métier est de faire la ville, c'est regarder l'ordinaire de celui qui habite et réside dans cette ville, celui qui en administre. Celui qui administre l'ordinaire des autres, et je trouve que ça vaudrait le coup de se poser la question. Par exemple, j'écoutais Lucille sur les contestations métropolitaines, là, super intéressantes dans le Bas-Châtenay et sur le métrocable à Grenoble. Deux objets, quoi, techniques, l'un touristique et l'autre un objet vraiment technique qui a toute sa rationalité pour pouvoir boucler un système de transport collectif à l'échelle macro, à l'échelle métropole, et qui en même temps, on aurait envie de pouvoir confronter ce travail ethnographique à la fois de ceux qui contestent, mais avec aussi ceux qui le conçoivent et ceux qui le portent politiquement. Pour pouvoir justement dépasser l'idée de la contestation et peut-être atterrir sur justement l'idée d'ordinaire. Parce que pour ceux qui le conçoivent, il s'agit d'améliorer l'ordinaire des gens qui ont l'usage des transports publics. Pour ceux qui le reçoivent dans leur riveraineté, c'est une perturbation évidemment de leur ordinaire. Et pour ceux qui l'administrent, on sent bien toute la portée symbolique. De l'objet. Donc, vraiment se demander dans le fond cette capacité de réflexivité de ces collectifs, de ces individus qui deviennent experts quelque part de leur quotidien et de leur ordinaire, quitte à l'objecter aux autres, en tout cas à faire un débat public autour de cela, je trouverais assez intéressant méthodologiquement de le confronter avec tous ceux dont on pourrait enquêter sur l'ordinaire, quoi, et qui sont finalement convoqués par l'objet technique à réaliser, le métrocable ou le futur arbre héron. Enfin, l'ex-futur arbre héron. Donc ça, c'était la première chose qui me venait en tête. La deuxième chose qui me venait en tête, c'était dans le fond, qu'est-ce que ça raconte tout ça? C'est-à-dire, pourquoi cette attention à l'ordinaire, alors qui n'est pas nouvelle, évidemment. Moi, je vous le disais un peu sur le ton de la rigolade, je suis un enfant des années 90, c'est-à-dire que moi, excusez-moi ce moment égocentré, mais c'est simplement pour vous compreniez d'où je pars, j'ai travaillé sur la ville de Londres, sur les modèles de développement urbain qu'on appelait à un moment la ville créative. Donc, c'était vraiment essayer de comprendre, pour le coup, l'extraordinaire de la circulation des modèles urbains autour de l'événement, autour du recours à la culture, à l'art, à la monstration des pratiques artistiques dans l'espace public pour engager un processus de transformation de la ville. Donc, il y avait, et à ce moment-là, tiens, Nantes n'était pas à plaindre, hein, puisque c'était un des laboratoires, justement, de la manière dont l'extraordinaire culturel et artistique fait événement et a fortiori pourrait faire ville. Et on voit bien toutes les limites de la chose aujourd'hui. Et ce retour quand même à l'ordinaire, à ce qu'on appelle dans certaines métropoles l'hospitalité et non plus la seule attractivité, est assez symptomatique d'un moment quand même qu'on est en train de vivre. Pour vous donner une petite anecdote, il n'y a pas longtemps, j'étais à une réunion du PUCA, le plan urbanisme et construction architecture, avec, pour ne pas le citer, François Ménard, un des interlocuteurs que nous connaissons toutes et tous, et qui nous disait, en gros, concrètement, il ne faut plus dire métropole. D'ailleurs, le programme POPSU Métropole, auquel certains d'entre vous êtes liés, ne peut plus s'appeler POPSU Métropole parce qu'il faut l'appeler POPSU Transition. Parce que dans le fond, l'extraordinaire métropolitain n'a plus le vent en poupe à l'heure des transitions écologiques, à l'heure de la surconsommation des ressources, etc., etc. Faisons du territoire le lieu de l'ordinaire de la majeure partie des gens qui subissent en fait la métropolisation. On voit bien qu'il y a un temps de l'ordinaire, quelque part, qui est un peu presque instrumentalisé à la fois dans les commandes de recherche et puis dans l'énonciation de ce qui fait quotidien, quoi. Et de quelle réalité est-ce que c'est le révélateur, quoi? C'est un peu la question que je me posais, dans le sens où, dans le fond, on se rend bien compte quand même que ce qui va motiver l'analyse de l'ordinaire, c'est souvent l'extraordinaire. voilà, un métro câble, un arbre héron, c'est quand même pas rien, ou un grand ensemble un peu iconique à Rome, etc., etc. Et de ce point de vue-là, je pense en effet qu'il y a un moment dans les fabriques métropolitaines, dans l'attention quand même à l'ordinaire et au quotidien, il y a un retour quand même sur l'interaction avec le milieu. Le milieu ambiant, vous diriez du côté Cresson AAU, le milieu environnemental, écologique, diraient les écologues, les géographes. Il y a quand même de plus en plus ce que moi j'ai pu appeler dans d'autres cénacles l'idée d'un réencastrement des sociétés urbaines dans leur environnement. Et qui quand même oblige un moment à retrouver un peu le fonctionnement écosystémique des territoires, à retrouver ce qui occupe les trois quarts des gens, c'est-à-dire en effet leur quotidien, à retrouver les paysages de l'ordinaire. À Grenoble, par exemple, ce qui est assez frappant, c'est qu'une grande partie, dans le fond, de la construction de la ville s'est faite dans son rapport à l'extraordinaire de la pente et de la montagne. Et progressivement, dans les documents d'urbanisme, dans les projets, on essaye de retrouver le quotidien de la plaine dans ses éléments paysagers, mais aussi toutes les propriétés qu'a cet espace pour faire du vélo, par exemple. Hein, c'est se rendre compte que si on fait beaucoup de vélo à Grenoble, ben c'est tout simplement parce qu'on est dans une plaine particulièrement plate. Elle a donc des propriétés qui pèsent très très lourdes sur notre quotidien, cette plaine et cet environnement. Donc ce retour à cette attention de plus en plus portée sur ce qui peut paraître banal est en fait est assez extraordinaire à décrire au final. Et peut-être deux choses pour conclure, enfin même pas pour conclure, pour épiloguer. C'est moi j'ai été très attentif à la question des objets techniques et on pourrait presque même dire des objets socio-techniques. Je trouve qu'aujourd'hui une grande partie de la compréhension de l'ordinaire, de la transformation des villes, c'est de comprendre justement les objets socio-techniques, non pas qui nous gouvernent, que nous gouvernons également, mais enfin qui co-transforme les espaces. Et je pense qu'en effet, depuis le smartphone, en passant par un objet architectural ou en passant par du mobilier urbain, qu'il soit éphémère ou non, il y a dans la compréhension des objets socio-techniques et méthodologiquement le recours aux méthodes des science and technology studies de plus en plus présent dans les études urbaines. Je trouve qu'il y a quelque chose là qui est assez extraordinaire pour comprendre l'ordinaire, justement. Et puis, pour conclure sur les années 1890, je me demandais, dans le fond, si, quelque part, un peu à la manière d'un Vidal de Lablache qui énonçait le possibilisme pour pouvoir s'échapper d'une forme de déterminisme écologique sur le fonctionnement des sociétés humaines, il n'y a pas quelque part dans cette espèce d'archéologie de l'ordinaire une sorte de possibilisme, c'est-à-dire essayer de se dire dans le fond, en effet, la métropolisation n'est pas une fin en soi. Nous ne sommes pas déterminés à être métropolisés. On voit bien que toutes ces contestations sont autant d'occasions finalement de se dire qu'il y a d'autres possibles en fait en termes de développement urbain et même de représentation collective de ce que peut être la ville et le territoire ou la ville-territoire, comme on pourrait le dire. Et je crois qu'il faut vraiment, vraiment renouer avec cette capacité qu'avaient finalement les chercheurs il y a un siècle à investiguer quelque part l'ordinaire en croisant les méthodes avant qu'elles ne soient trop figées. Et probablement que l'ordinaire est à la hauteur de cet enjeu, je pense. Donc voilà, c'était quelques bribes de réflexion, mais alors franchement très fractionnées, je m'en excuse, mais je ne peux pas faire mieux à ça.
Merci. Merci Charles pour ce travail difficile et pour autant suggestif, d'une part sur les années 1890, sur le praticien réflexif et puis le possibilisme, pour terminer, Vidal de Lablache. L'idée est peut-être de terminer cette journée en laissant la parole à Véronique, qui depuis ce matin nous écoute, attentive, perplexe, curieuse, déroutée, que sais-je. C'est tout l'intérêt de faire des journées de ce genre, de justement ne pas savoir ce qu'il y a de bien dans la ville. Donc merci à nouveau à toi Charles, merci Véronique. Et puis, merci à vous quatre de la table ronde, évidemment, comme nous le disions.